11h30, midi, votre rendez-vous dominical avec Philippe Bouvard pour Allô, ici Bouvard. Bonjour Philippe.
Bonjour Virginie, bonjour vous tous. Eh bien écoutez, ce sera comme d'habitude, hein. Un certain nombre de pourquoi et en principe autant de parce que.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Pourquoi redécouvre-t-on la mobilité ? Ben c'est parce qu'on discute en ce moment à l'Assemblée nationale un projet de loi sur ce mot qui, entre-temps, a changé de sens. Enfin, qui a pris une autre acception. Parce que la mobilité, ça a été de tout temps, si l'on en croit le dictionnaire, la faculté de se mouvoir, de se déplacer. Ben aujourd'hui, mobilité désigne le trajet entre le domicile et le travail, et le travail et le domicile. Ben, faut dire qu'il y a des millions de travailleurs qui consacrent 1h20 par jour et 18% de leur budget. Alors évidemment, il y a ceux qui prennent les transports en commun, qui sont légèrement supérieurs à ceux qui se servent de leur voiture. Et puis, il y a ceux qui viennent travailler en trottinette, oui, ça existe, à vélo, ou avec les transports en commun. Et ceux-là sont très nombreux et font l'objet d'aides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État rembourse 50% de cet abonnement au transport en commun. Et puis alors, il y a des petits cadeaux que la prochaine loi va sans doute augmenter. Il y a 200 euros pour le carburant, 200 euros par an, ça ne fait pas beaucoup de plein. Il y a 200 euros pour le vélo. Alors, on peut quand même remarquer au passage que le carburant, c'est-à-dire par exemple le sans-plomb, est autant aidé que l'huile de mollet, qui est le carburant du cyclotouriste. Alors ensuite, on essaye de favoriser le covoiturage. À telle enseigne qu'on recommande aux travailleurs qui habitent dans le même quartier d'essayer d'aménager leurs horaires pour pouvoir être plusieurs dans un véhicule. Bah oui, mais enfin, si la femme de journée attend le veilleur de nuit et l'inverse, ça va exiger une redistribution des tâches. Alors, les futurs petits cadeaux. Bah, on encouragera bien sûr l'achat des véhicules électriques. Ça a commencé, mais ça ne marche pas encore très fort. Mais c'est, paraît-il, promis un bel avenir. On encourage aussi l'achat des véhicules à hydrogène. Alors là, c'est très théorique. Et on devrait aménager un peu partout les parkings. Ce n'est pas le tout d'arriver en covoiturage. Encore faut-il que le véhicule qui a servi à 3 ou à 4 personnes au mieux puisse se garer pendant que ces personnes travaillent. Alors, à propos du télétravail, dites-donc, alors il y a 5 millions de gens qui sont déjà des télétravailleurs. Alors, pour la mobilité, qui est à l'ordre du jour, je pose la question, est-ce qu'on considérera comme mobilité le fait de passer de la table de la cuisine à la table de la salle à manger ?
Jusqu'à midi, allô, ici Bouvard sur RTL.
Pourquoi y a-t-il chez nous de moins en moins de familles nombreuses ? Ben, j'ai posé la question à Mireille Lachaud, qui est administratrice et chargée de la politique de la famille. Bonjour Madame Lachaud. On ne peut pas dire que la politique familiale du gouvernement soit en pointe, hein, parce que j'ai relevé qu'il y avait eu 0,3% d'augmentation dans les budgets de la famille. C'est vraiment très peu. Hein.
Alors depuis des années, Monsieur Bouvard, les politiques envers les familles sont, on dira presque discriminatoires, les politiques envers les familles.
Et est-ce que ça ne vient pas du fait que le chef de l'État n'est pas véritablement un père de famille, mais qu'il a des enfants et des petits-enfants par alliance ?
Oh, vous pouvez penser ça, il est issu d'une famille lui aussi. Donc, il sait ce que c'est que la famille. Je ne pense pas qu'on puisse lier les choses à ce genre de choses. Par contre,
oh,
vous
même,
avez raison.
Il a fait un jour une déclaration que certains ont pu trouver choquante quand il a dit « Présentez-moi une femme instruite qui a envie d'avoir 8 ou 9 enfants ». Ça voulait dire « Quand on est instruit et intelligent, on s'arrête de procréer rapidement ».
C'est quand même une donnée générale de nos sociétés de consommation. On dira, plus les sociétés consomment, moins elles ont d'enfants. Mais je crois que la plupart des familles, si elles en avaient les moyens, auraient beaucoup plus d'enfants que ce qu'elles ont.
Une famille nombreuse, c'est à partir de 3 enfants. Hein. Il y a autant de familles de 3 enfants qu'il y a 40 ans. C'est ensuite que c'est moins important, qu'on a très peu de familles de plus de 4 ou 5 enfants. Et je crois que, oui, vous avez dit le manque de moyens, parce que l'attrait des allocations familiales et des aides de l'État a quand même décliné avec les années.
C'était l'équivalent, il faut se souvenir que c'était l'équivalent en 1960, pour une maman qui avait 3 enfants, c'était l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un salaire minimum.
Oui.
Alors que maintenant,
alors aujourd'hui, pour 3 enfants, j'ai noté qu'on percevait 300 euros et 10 centimes. Je ne m'explique pas d'ailleurs qu'il y ait toujours des centimes.
Oui, parce que c'est un pourcentage, chaque fois c'est un pourcentage d'augmentation. Souvent d'ailleurs ce n'est pas une augmentation puisque le pouvoir d'achat bouge beaucoup. Donc pour les familles, c'est plus les allocations familiales ne sont plus ce qui permet la solidarité par rapport aux familles qui ont de nombreux enfants.
En plus des allocations, il y a quand même des aides pour les vacances, pour la rentrée scolaire, pour Noël.
Tout est soumis à condition de revenus.
Oui.
Et ça, tout ce que vous me dites s'adresse plus ou moins à des familles, je dirais, des familles presque pauvre.
Oui, mais attendez.
Les taux d'année en année baissent.
On ne peut pas ne pas remarquer non plus que 45% de ces familles nombreuses, les vraies, sont sur le seuil de la pauvreté.
Tout à fait. Et donc, il faut aider les plus pauvres. Mais cela se fait en pénalisant, je dirais, les classes moyennes, ce qui fait que les classes moyennes de plus en plus se limite à 3 enfants, parce que c'est d'un coup extraordinaire que de pouvoir c'est presque un luxe maintenant pour
des familles.
Quelle
motivation pour créer une famille nombreuse? Je crois que c'est souvent l'attente d'un garçon alors qu'on a eu que des filles.
Ça peut être cette question, mais c'est pas seulement cela. Les personnes qui ont vécu dans des familles nombreuses savent l'intérêt qu'il y a à être plusieurs dans une famille. Il y a quand même une solidarité, il y a tout de même une façon de vivre qui est différente. Certes, les familles ont moins de moyens, mais la famille est souvent joyeuse, elle est gaie, ce sont des familles où on rit, ce sont des familles
où il y a une grande... C'est des communautés un peu différentes, mais enfin, ça implique d'abord un choix de la mère de famille. Il faut qu'elle choisisse entre vie familiale et vie professionnelle. Et puis, une fois qu'elle a choisi la vie familiale, encore faut-il faire un arbitrage entre les câlins et les tâches ménagères.
Vous avez presque tout dit, sauf que maintenant, les choses s'équilibrent un peu. Ce n'est plus seulement la maman qui choisit de rester à la maison. Les femmes, petit à petit, arrivent pratiquement dans certains milieux au même salaire que les hommes parce qu'elles sont travailleuses à l'école et qu'elles ont des jobs sympas. Donc souvent, maintenant, il y a un équilibre. Les pères commencent à vouloir prendre leur part dans l'éducation des enfants. Ça, c'est nouveau.
Est-ce qu'il est exact que les familles nombreuses sont souvent jalousées et mal aimées par des familles qui ne le sont pas nombreuses?
Je crois que ce que vous dites est vrai, c'est totalement vrai.
Combien avez-vous d'enfants, madame?
Alors moi j'ai 4 enfants Et vous, monsieur Bouvard?
Ben moi, je me suis arrêté à deux, donc je n'ai pas droit à l'appellation de famille nombreuse. Nombreuse. Mais
moi, j'y ai droit. J'ai
beaucoup de petits-enfants, donc ceci
super.
Compense
vous
cela.
Savez ce que c'est.
Merci, madame Lachaud.
Merci à vous, monsieur Bouvard.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Pourquoi prolonger l'espérance de vie ? Oh, ben écoutez, c'est parce que nous portons en nous, enfin, pour les plus optimistes et les plus équilibrés, ce qu'on a appelé l'instinct de conservation et que Jean-Jacques Rousseau nommait l'instinct de survie. Mais attention, hein, il s'agit de prolonger l'espérance de vie en bonne santé. Hein. C'est pas d'ajouter aux dépendants et aux malades. La vie vaut d'être vécue très longtemps, mais à condition que la vie soit encore agréable. Alors, depuis 1959, on a quand même gagné 14 années d'espérance de vie. C'est beaucoup lorsqu'on songe qu'au Moyen-Âge, l'espérance de vie était de 26 ans, ce qui ne laissait pas le temps de divorcer, même de se marier souvent, de se fâcher avec les gens. Enfin, bon, ça avait un bon côté, mais on ne profitait pas beaucoup de l'existence. Alors, aujourd'hui, la moyenne pour les hommes et les femmes en France, les hommes, c'est 79 ans, les femmes, c'est 83 ans, et ça va encore s'améliorer. Oui, c'est-à-dire qu'en 2070, on pourra, si on est un homme, vivre 90 ans et si c'est une femme, 93 ans. Mais cet écart, il va se resserrer, si bien qu'il suffira d'attendre encore 6 décennies, bon, on n'est pas pressé, pour que les hommes et les femmes aient la même espérance de vie. Alors, il faut savoir qui il convient de remercier pour cette augmentation de l'espérance de vie. Il faut remercier les médecins, il faut remercier les chirurgiens, il faut remercier les pharmaciens, il faut surtout remercier ceux qui commencent à procéder avec succès à des réparations d'organes détériorés, voire à des échanges standards comme pour les vieilles voitures. Mais il faut aussi remercier les dirigeants qui ont fait diminuer la pénibilité, la durée du travail, la pollution, l'usage de l'alcool et du tabac, bref, tout ce qui raccourcissait la vie. En tout cas, attention, on pourra faire tout ce qu'on veut, il n'est peu probable que notre espérance de vie dépassera 115 ans. Oh, 115 ans, c'est déjà pas mal, mais enfin, évidemment, 115 ans, il faut quand même tenir compte du fait que les derniers chiffres sont tombés il y a quelques jours. L'équilibre des retraites ne sera pas atteint, quoi qu'on en ait dit précédemment, avant 2042 et peut-être avant 2056. Ce qui fait que Jean-Paul Delevoye, qui est le haut commissaire aux retraites, aura dans le meilleur des cas, 109 ans, lorsqu'il aura droit, lui aussi, à sa retraite définitive.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Pourquoi a-t-il fallu lancer une souscription internationale pour restaurer le tombeau de Napoléon aux Invalides ? Ben, la réponse doit être la même que lorsqu'il s'est agi de réparer Notre-Dame, parce que l'État n'a pas les moyens. Pourquoi a-t-il fallu lancer une souscription internationale pour restaurer le tombeau de Napoléon ? Je vais demander au président de la Fondation Napoléon, Victor-André Masséna, qui descend directement de celui qu'on appelait l'enfant chéri de la victoire. Alors la réponse à la question que je posais, est-ce que ça n'est pas la même qu'on a faite lorsqu'il s'est agi de réparer Notre-Dame ? L'État n'a pas les moyens.
Alors l'État n'a plus tout à fait les moyens de payer pour tout. Et en l'espèce, ce qui se passe, c'est que c'est un ensemble d'une dégradation qui est due au temps, à certains événements.
Oui, mais enfin, attendez, il n'y a pas eu de travaux depuis un siècle.
Alors, il n'y a pas eu de travaux depuis un siècle. Il y a eu des événements comme des chutes depuis le plafond de la coupole, une dégradation du marbre, le passage de très nombreux visiteurs. Donc, en fait, cette souscription, c'est pour réparer le tombeau, l'entourage du tombeau, les sols et autres, et également quelques travaux dans les chapelles avoisinantes où sont enterrés quelques grands représentants de l'histoire de France.
Enfin, est-ce que le million de visiteurs qui se prêchent chaque année autour du tombeau de l'empereur et qui paient chacun 12 euros n'apporte pas les fonds nécessaires ?
Alors, ils apportent une partie des fonds nécessaires, mais d'autre part, il ne faut pas oublier que cet argent il vient aussi permettre au musée de l'armée de se développer, d'améliorer ses collections, d'offrir aux visiteurs un ensemble de prestations historiques remarquables. Et la visite du tombeau de l'empereur est incluse dans cette visite du musée de l'armée. Et donc malheureusement, cet argent ne peut pas être uniquement réservé à la tombe et à la réfection, si je puis dire, de l'environnement de la coupole de l'église des soldats.
Et puis alors, tout ça se décide dans la perspective du bicentenaire de la disparition de Napoléon.
Alors, ce que nous voulons effectivement, c'est essayer d'assurer que lors de la commémoration de la disparition de Napoléon, le 5 mai 2021, nous puissions offrir aux Français et aux visiteurs un ensemble parfaitement restauré et en parfait état pour qu'ils soient fiers de cet endroit et de la commémoration de cet événement, si je puis dire.
Est-ce qu'il ne faudrait pas que Paris se dote d'un boulevard ou d'une avenue Napoléon, parce que je crois qu'il n'y a qu'une rue Bonaparte ?
Alors, il n'y a qu'une rue Bonaparte, effectivement, et je pense que c'est un peu un paradoxe. C'est un peu comme en 2005, où on a commémoré toutes les institutions de Napoléon, créées par Napoléon et Bonaparte, le Conseil d'État, la Cour des comptes, enfin l'ensemble des institutions, la Légion d'honneur, mais qu'on n'a pas commémoré le personnage lui-même. Je pense que Napoléon est partout à Paris, et en particulier évidemment aux Invalides, et qu'il n'a pas besoin d'une rue ou d'un endroit particulièrement dédié nominalement.
Alors, il y aura des festivités nombreuses, on en reparlera. Il y a aussi le fait que l'empereur a eu droit à 6 cercueils, que lorsqu'on les a rouverts, il était dans un état de conservation remarquable et parfaitement identifiable.
Parfaitement identifiable, effectivement. Lorsqu'ils sont venus en 1840, enfin qu'il y a eu une réouverture du cercueil, il y a eu, alors c'est dû à des phénomènes que je suis incapable d'expliquer techniquement, mais qui sont parfaitement compréhensibles. Il y a eu, le corps était momifié et on a parfaitement retrouvé, paraît-il, le physique, ou en tout cas le visage du vainqueur d'Arcole.
Et puis cet avis aux souscripteurs, ils auront droit à une exonération fiscale et à une médaille.
Alors nous aurons effectivement, ils bénéficieront de tout, comme tous les dons pour des causes d'intérêt public, ils auront droit effectivement à un certificat fiscal. C'est fait entre le musée de l'armée et la Fondation Napoléon pour le recueil des fonds. Et ensuite, il y aura une petite médaille souvenir pour leur montrer qu'ils ont participé à cette restauration.
À Sainte-Hélène.
Pour Sainte-Hélène, il y aura un voyage à Sainte-Hélène en 2021 pour ceux qui voudront aller in situ. Mais l'essentiel des événements et de la commémoration se déroulera évidemment aux Invalides.
Je crois qu'il y a un avion qui met 6 heures pour venir de Johannesburg, alors qu'avant, il fallait compter 6 jours de bateau.
Avant, oui, c'est ça. On était on montait à bord du Sainte-Hélène, qui était un cargo mixte au Cap, et on allait du Cap à Sainte-Hélène, ce qui permettait d'ailleurs de revivre, si je puis dire, l'arrivée de Napoléon et de voir à quel point le spectacle de cette île perdue au milieu de l'océan, ce volcan, pouvait être éventuellement déprimant pour quelqu'un qui savait qu'il allait y passer le reste de sa vie.
Merci Victor-André Masséna et vive l'empereur.
Merci Philippe Bouvard, merci beaucoup pour votre aide.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
C'est le mot gargarisme de la semaine, au moins dans la bouche des dirigeants optimistes. Oui, c'est l'attractivité. Alors, l'attractivité de la France, ça signifie que tous les entrepreneurs étrangers, ou presque, ne rêvent que de venir s'installer chez nous. Moyennant quoi, il y a quelques jours, Fiat a rompu ses fiançailles avec Renault en arguant que, en France, le climat social et politique était trop instable. Ah ben, vous avouerez que, comme attractivité, on fait mieux. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Philippe, à suivre sur RTL, le grand jury RTL Le Figaro LCI, présenté par Benjamin Sportouche, qui recevra le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Mais tout d'abord, nous faisons un point sur l'information. Vous écoutez RTL, il est midi. Marion Ferrer.